Voilà, de retour sur les ondes de Canal Sud 92.2 avec le groupe No Self. Si vous ne faites pas semblant, vous faites le relais des opprimés, des sans-voix, écrasés sous le poids de notre ère de post-vérité.
Quoi, rien que ça. Hein.
Pff, voilà. Et vous jouez après ça, moi, ça suffit. Ça. On a décidé qu'on allait parler un petit peu de l'ère de post-vérité. Je vous fais écouter un petit son qui va déjà nous mettre en mémoire ce que c'est l'ère de post-vérité.
Est-ce qu'on ne peut pas y voir également la volonté d'induire une sorte de méfiance systématique, amener les citoyens en fait à douter de tout, y compris évidemment du factuel des faits.
Hannah Arendt disait « Quand le mensonge devient généralisé, ce qui est détruit, c'est le sens par lequel nous nous orientons dans le monde réel. Le problème, ça n'est pas que les mensonges sont acceptés comme une vérité. Le problème, c'est que plus personne ne croit en rien, ou plutôt, chacun croit en ce qu'il veut. Et ce qui disparaît alors, c'est notre capacité à débattre sur des fondements communs, c'est-à-dire le cœur même de notre démocratie. Il me semble en effet que nous sommes entrés dans ce que la philosophe Myriam Revaux-Delonne appelle l'ère de la post-vérité. Ce que nous voyons monter, c'est une indifférence à la vérité. Peu importe que ce qui est dit soit vrai ou faux, tout ce qui compte, c'est que ce soit efficace, que suffisamment de personnes aient envie d'y croire. C'est cette situation, je crois, que viennent rencontrer et amplifier les authentiques opérations de désinformation. Avec, je le crains, si nous n'y prenons pas garde, des conséquences délétères. Un monde dans lequel la parole politique n'est plus liée par le réel, où il devient possible de dire tout et n'importe quoi, c'est un monde où tout peut se produire, y compris, je le crains, le pire.
Et oui, moi aussi, je vais parler comme ça. Je vous cite Hannah Arendt, « Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut plus se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. » Ce concept de post-vérité ou post-factuel, ça désigne une époque où les faits objectifs ont moins d'influence sur l'opinion publique que l'idéologie, les émotions et les croyances personnelles. Cette idée a pris de l'ampleur dans le débat public, notamment avec la montée des discours populistes. Résumé, vous écoutez avec attention, c'est cool. Donc il est apparu aux États-Unis dans les années 2000, notamment à des événements comme les attentats du 11 septembre et les différentes théories du complot. Ce terme souligne un glissement dans la manière dont l'information est produite, diffusée et perçue. Ce phénomène de relativisme est amplifié par l'essor des réseaux sociaux et la montée de la défiance envers les institutions médiatiques et politiques. D'ailleurs, ça croise un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'omniprésence aussi des médias sociaux. C'est un truc qui fera partie de notre conversation à venir. Donc, pourquoi vous êtes saisi de ce concept d'ère post-vérité ?
Moi, je l'envisage un peu comme la dystopie dans laquelle on s'est plongé nous-mêmes. Moi, depuis que je suis né, j'ai grandi avec ça qui croit autour de moi. Et comme tu disais, Vincent, tout à l'heure, tu le vois même sur ton entourage proche qu'il y a eu un impact réel à travers justement tout ce que les médias et les discours populistes ont amené sur n'importe quelle classe. Ouais.
Ça revient en force avec le fascisme qui est carrément invité à la télé, qu'on veut inclure dans l'arc républicain, tout ça, genre, ce genre de truc.
Oui, moi je vais plutôt parler d'extrême droitisation des ondes, parce que réduire malheureusement la seule extrême droite au Rassemblement National aujourd'hui n'est pas tout à fait juste, puisqu'on a une multitude aujourd'hui de gens de la fachosphère qui ont envahi les plateaux télé. Ça peut aller de Boulevard Voltaire, de journalistes de Valeurs Actuelles et de tant d'autres, ou de spécialistes ou qui se disent spécialistes ou chroniqueurs et qui en réalité sont des hommes ou des femmes d'extrême droite et qui ont envahi les plateaux de télévision. Et puis surtout, la question sociale, climatique, antiraciste, féministe est complètement sorti des plateaux et vous n'avez qu'une seule question, c'est les fake news, c'est la question de la délinquance et de la sécurité, la question de l'islam ou la question du terrorisme, et parfois ils font l'amalgame entre les trois. Et donc malheureusement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que évidemment CNews en est, je dirais, le porte-étendard, mais les autres aussi tirent sur ces questions. Et donc dans le choix des thématiques qui vous imposent dans les débats politiques, entre guillemets, de débats sur ces chaînes d'information, c'est tout sauf du débat politique, et en réalité, une seule ligne est à l'ordre du jour. Donc oui, on le ressent.
Et puis ça englobe tous les problèmes, en fait, aussi, ce truc de post-vérité. Ça englobe les dérives fascisantes, ça englobe aussi les problèmes entre les êtres humains globalement aussi.
Ça matrixe beaucoup les personnes qui n'ont pas le temps de voir tout ce qui se passe sur l'aspect social du politique. C'est-à-dire, par exemple, moi je vais reprendre l'exemple dans ma famille, quoi. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont de classe moyenne, tout simplement, et qui juste, entre chez eux, t'en as beaucoup. Il y en a une bonne partie qui a été éduquée avec des avis d'extrême droite, sans même qu'ils ne l'admettent eux-mêmes, bien entendu. Mais ils s'en rendent même pas compte, je pense, pour la plupart d'entre eux. Mais c'est-à-dire que t'as une espèce de mécanique de la peur, quoi, qui a toujours fonctionné avec les médias. C'est pas un truc nouveau, quoi. C'est depuis.
Trump, c'est par exemple Trump, c'est le pur produit de la post-vérité.
De quoi s'agit-il ? C'est l'idée que toutes les opinions se valent, qu'il n'y a pas des choses vraies ou fausses, mais des faits alternatifs. Le changement climatique, ça se discute. Eh bien non, ça ne se discute pas. On peut discuter des politiques à mener pour le climat, voire refuser de tenir compte du changement climatique. Mais le nier, c'est comme nier que 2 plus 2 égale 4. Pourtant, depuis le développement des réseaux sociaux, c'est comme s'il n'y avait plus de vérité. Comment en est-on arrivé là ? Quand on vous ment régulièrement, vous ne croyez plus à rien. Pas plus au discours des officiels qu'aux autres. Ce qui compte, ce n'est pas de dire la vérité, c'est que ces mensonges circulent sur Internet et touchent le plus de gens possible.
Un peu comme tu disais, toi, ça, d'instrumentalisation aussi de certaines faits, de certaines vérités, justement pour essayer de tordre la vérité pour que ça colle justement à des projets. Donc, tu parlais aussi de ta famille, quoi. Faire réagir aussi par des trucs épidermiques genre d'extrême droite aussi, voilà, enfin, ça a toujours existé aussi, en fait, quoi. Il n'y avait pas besoin d'attendre non plus ce concept là, quoi.
Une fois que ces gens là sont contaminés par cette espèce de venin, c'est hyper dur de juste communiquer avec eux, parce que il n'y a même plus besoin, comme dit, c'est pour le point de la définition de l'ère de post-vérité, c'est qu'on n'a plus besoin d'avoir réellement raison, quoi. C'est juste plus besoin d'arguments pour avoir raison, quoi. C'est juste, tu l'as vu à la télé, t'as raison, quoi. Puis comment le définir ?
Tu l'as vu sur TikTok.
T'invites un professionnel,
un spécialiste.
Un spécialiste.
Il faut s'attaquer à la concentration des médias par quelques milliardaires, parce que c'est avec cette concentration-là qu'aujourd'hui vous avez une seule ligne politique.
Alors déjà, le concept de vérité a évolué au fil des siècles, influencé par des changements culturels, religieux et philosophiques. Dans la tradition religieuse, la vérité, c'est ce qui est accessible uniquement par la foi, et elle était opposée à la réalité matérielle. Dans quelques textes à vous, notamment le titre qu'on a entendu tout à l'heure, Rosary, le rosaire, il y a pas mal de vocabulaire religieux, en fait, ouais. c'est là où je voulais en venir. Dit rosaire dans nos mains, life, sanctum, burn, rosary, le rosaire. Tu parles aussi de a soul, je ne sais pas si c'est une métaphore, parce que l'anglais c'est plus facile, mais malgré tout, c'est du vocabulaire religieux.
Ouais, carrément.
L'âme, tu l'associes à l'incendie criminel, malgré la moralité, encore un terme religieux, la moralité mondiale. Et dans The Mask aussi, tu... parle qu'il n'y a pas de Sainte Trinité.
Ouais.
C'est genre une astuce littéraire ou c'est...
Ouais, c'est un truc, ça sonne un peu dramatique. Ouais, okay. Sur le papier, c'est... En fait, c'est un truc aussi, il y a beaucoup de groupes de hardcore qui utilisent ce lexique-là. Ça sonne un peu directement beaucoup plus dramatique, j'arrivais pas à trouver un autre adjectif. Épique, ouais, mais...
Bah, le groupe suisse, là, par exemple.
Divine Sentence, voilà, tout est dans le nom, quoi. Ouais. Oui, et puis il y a aussi ce truc où... C'est des espèces de relents un peu conservateurs avec quoi on grandit en France, et c'est des trucs qui sont un peu ancrés en nous, et c'est marrant de les détourner aussi, quoi.
Ouais, du coup, Rosaris, c'est les chapelets, quoi. C'est pour ça que ça parle, en gros, de devoir s'éloigner de tout ce qui est religion et tout ça. Il n'y a aucune... comment dire, attaque personnelle sur des gens qui sont religieux,
sur les croyances. Et c'est plus justement sur ce que tu viens de dire en rapport à la post-vérité,
voilà,
aussi. Quoi.
C'est...
Exactement.
D'écouter aveuglément. Quoi.
Tout ce que ça peut amener de néfaste.
Avec les Lumières, la science devient la référence en matière de vérité, et progressivement, ça remplace la foi comme source en instaurant un paradigme où les faits étaient des repères objectifs. On parle de post-vérité, mais alors il faut s'entendre sur l'idée de ce que c'est la vérité en fait. Quoi,
la vérité, c'est ça, feuille blanche.
Feuille blanche.
Deuxième joker.
Jérôme, tu peux ramasser les... prendre non, mais... les feuilles blanches
non,
de Nino.
Je comptabilise. Hein.
C'est plus un ressenti global quoi, en fait, de parce qu'on peut voir les plus abjects qu'on peut voir. En fait, nous, le côté philosophique du truc, enfin, c'est pas notre plus grande maîtrise, je dirais, mais bien que Nino ait une façon de très philosophique de l'écrire, je dirais.
Peut-être choisir un titre de votre playlist.
Le premier, s'il vous plaît, Maestro.
Tu peux en parler. C'est une technique pour gagner du temps. En fait.
Eh bien,
moi perso, je m'en fous.
C'est un morceau de l'orchestre floridien qui s'intitule Malissade de Palace. Le morceau s'appelle Twisting Reality, yes. Et peut-être que mon collègue Vincent va pouvoir approfondir la chose.
Je sais pas trop quoi dire de plus, c'est très efficace, c'est en mode crossover, hardcore crossover, trash metal un peu dans les riffs, les inspis, ce genre de bail. C'est vraiment très très cool. Pour info, la référence de Malice at the Palace, je sais pas si vous l'avez, en fait c'est un nom qui vient d'un événement de basketball dramatique, en proportion gardée avec ce qui s'est passé.
Une équipe
après,
qui a perdu ou...
C'est non, une équipe, c'est passé, en fait c'est une bagarre générale qui a été déclenchée par deux joueurs qui sont tapés et en fait le public
est descendu voilà, sur le terrain.
Le public est descendu.
Aussi. Pour se battre,
et ouais, ils sont fait taper, t'as même un qui a reçu une chaise du gradin sur la gueule. Enfin bon, c'est
vraiment un
événement dramatique. Ouais, il y a eu la police et tout qui a été inclus. Ah ouais. Enfin, bref, c'est un délire.
Et ce fight avec des basketteurs, faut être déter, hein, parce que. Les gaziers, tu vois.
Cet événement a impliqué beaucoup de racisme sur sur les basketteurs par les journaux. Bah justement, cette ère de post-vérité dont on parlait, c'est quelque chose qui était déjà présent à l'époque. Les journaux s'en sont beaucoup pris aux joueurs. Etc.
Ça vient de leur démo, donc le son est un peu pourri aussi.
Oui, c'est vrai, mais c'est rigolo, c'est ça le fun.
Et c'est ça qui est cool. Ouais.
Carrément, toi tu.
Ça
tu
c'est bâche,
toi. Alors, souris un peu pourri, mec.
Non, mais t'inquiète.
Et bim. Bah, ils écoutent. Attention, ils écoutent peut-être. Ils vont faire au basket, les mecs.
Mais je pense qu'ils diraient pareil.
Ouais, le son est un peu pourri, en effet.
Ils sont costauds, Malice.
Ouais, mais ils sont américains, bon, de base.
On vous attend, quoi. À la sortie, le temps qu'ils arrivent.
Qu'ils y viennent.
T'inquiète, quoi.
Qu'ils y viennent.